On va partir maintenant du côté du Kurdistan, dans le magazine de Canal Sud.
شفاعت رسول اكرم رحمه شتبا نادر زي كنت اقول هاي 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 يا خاي
قولي يا رب انا اسقولي قول على البرز النهارده
قال برالا وري بولا خبل بايدا قال قي قولي قلتنا قولا مع عبدالا خدي ما قيا يا زي بلالي بلسر مداش يا شاغ من خارضا هاي هاي انا وري بولا خبل بايدا شلان مش كبي بخيا قولي برباز كي وزردارا صوصني لوشان دي بايدا وري بولا خبل زنده کوا گوزر قرمی بر سر حرامی میرادا یوم دوزیه و خوره سر خورت میرد خلقه دا امان های نوائه ربیون نزگن ما خداو نزگن ما شفاعت رسول اکرم رحمت ستبه ندر زیگن دارا قلو های تو عبدیت ما های های
Un dengbeige kurde pour démarrer, allez, on va dire le corps de ce magazine du mercredi 15 novembre, car effectivement nous partons au Kurdistan. On va démarrer par une petite info. Sachez que ce dimanche 12 novembre, il y a eu un séisme assez important au Kurdistan, très exactement dans le Kurdistan du Sud, hein, plutôt la partie irakienne et dans le Kurdistan de l'Est, donc là la partie iranienne, un tremblement de terre dont on a peu parlé, comme ouais, d'ailleurs clair. On parle assez peu de ce qui se passe au Kurdistan en général, pourtant magnitude 7,3 et on parle de centaines de blessés. Deria, tu me disais peut-être 400 de centaines de morts. Tu me parlais de peut-être 400 morts, c'est
ouais,
ça
d'après ce que j'ai lu, c'est plus de 400 morts et un millier de blessés.
Oui, alors moi j'ai même 3000 blessés là, ouais. Donc on voit bien quand même quelque chose d'assez grave, d'assez lourd, avec évidemment à côté de ça de nombreuses maisons détruites ou endommagées. Et donc sachez que déjà on a une pensée évidemment pour les gens qui ont subi ce tremblement de terre, et sachez que le Croissant Rouge du Kurdistan, hein, association humanitaire, a fait un appel à dons pour les victimes frappées donc par ce séisme du 12 novembre. Ceci dit, maintenant c'est pas tellement du Kurdistan on va dire iranien ou du Kurdistan irakien qu'on va parler, on va plutôt aller du côté du Bakour, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on nomme le Kurdistan côté turc.
Oui, c'est ça.
Voilà, avec nous donc So et Deria pour parler de 3 jours de solidarité aux prisonniers, prisonnières kurdes en Turquie. 3 jours qui se tiennent à partir de jeudi, demain, jeudi 16 novembre, et jusqu'au samedi 18 novembre. Samedi, ce sera une grande journée à la chapelle. On va détailler un petit peu le programme. Mais d'abord, on va peut-être resituer un petit peu ce qui se passe en Turquie. Et vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé dans ces 3 jours de solidarité, dans ce petit festival.
Vas-y. Juste, moi, je voulais préciser que c'est 3 jours en solidarité aux prisonniers du mouvement kurde en Turquie. Et du coup, les personnes luttant autour de ces questions-là ne sont pas forcément que kurdes. Il y a aussi des personnes turques, il y a aussi des Européens. Et du coup, voilà, c'était juste pour préciser et rectifier l'intitulé de.
Ouais, c'était un peu long à mettre sur le titre, quoi. Mais,
ouais. Okay. Mais il est mis. Ou il n'est pas mis du tout, mais en tout cas, voilà, c'était plus pour préciser ce truc-là.
Donc solidarité avec les prisonniers et prisonnières du mouvement kurde.
Ouais.
Et alors, resituons un petit peu ce qui se passe en Turquie. L'histoire, on ne va pas refaire toute l'histoire du peuple kurde et notamment des relations avec l'État turc. Ce serait un peu long, on remonterait à 100 ans en arrière au minimum, hein, la création de la Turquie après la chute de l'Empire ottoman. Mais au moins, depuis, on va reparler un peu de ces dernières années et de la montée en puissance de Erdogan, devenu président quasi omnipotent maintenant, après avoir été Premier ministre pendant plus d'une décennie.
Juste pour faire un petit truc chronologique rapide, c'est que normalement, en fait, il y avait une paix depuis 2 ans qui durait depuis 2013 jusqu'à 2015 entre le gouvernement turc et le mouvement kurde, quoi. Et à partir de 2015, quand il y a un parti kurde qui s'est monté, le HDP, là, en fait, Erdogan, il a décidé, le président de Turquie, faisant partie de la KP, a décidé, en fait, de faire la guerre aux Kurdes. C'est à partir de là, en fait, où tout s'est un peu renversé et tout a commencé à augmenter au niveau des conflits, au niveau des attaques des villes kurdes, au niveau du gouvernement qui met toutes ses puissances militaires sur toute la partie kurde de Bakour, quoi. Donc là, en fait, le président, ce qu'il souhaite en ce moment, c'est de faire taire toute forme d'opposition et surtout kurde en Turquie. Et là, ce qui lui fait peur aussi, c'est que donc, du coup, il y a le Bakour, il y a au niveau Kurdistan, en fait, c'est que c'est séparé sur quatre territoires.
Ouais, le Bakour, on peut préciser, donc c'est vraiment c'est le sud de la Turquie, hein, ça fait une bande au sud de la Turquie.
C'est ça, c'est surtout montagneux et le capitalisme n'est pas du tout peu installé dans ces coins-là. C'est tout ça pour dire juste pour par rapport au Rojava, en fait, c'est que aussi pendant cette période-là,
donc le Rojava, c'est la partie syrienne, hein,
c'est ça, qui est juste qui est juste à la frontière de la Turquie. Donc quand tu vas rendre visite aux Kurdes à la frontière de la Turquie, ils disent oui, mais on a nos cousins en face, en fait, du coup on a été séparés, mais on va visiter, quoi. Et et à partir du moment, en fait, où le Rojava en 2015 a commencé à se constituer, a commencé à se battre contre Daesh, qui justement à cette époque attaquait pour que les Kurdes s'en aillent. Là, en fait, Erdogan a encore plus montré ses dents et a sorti les armes et a commencé à exécuter les gens et tout ça faisant. Ensuite, il a eu aussi en 2016, l'année dernière, en juillet, où il y a eu un putsch contre lui.
Tentative de coup d'État, oui.
C'est ça. Où c'était son adversaire, lui aussi très religieux et très les mêmes pensées fascistes, quoi.
D'ailleurs, ancien partenaire, d'ailleurs.
C'est ça, ancien partenaire avec qui ils se sont plus entendus, quoi. Et du coup, là, trouvant cette excuse-là de coup d'État, il a décidé, en fait, d'enfermer toutes les personnes qui pouvaient être opposées à lui, notamment les gulenistes et en même temps l'extrême gauche turque et l'extrême gauche du mouvement kurde, a enfermé tout le monde, quoi.
Donc il a enfermé ceux qui étaient partisans de Gulen, hein, donc c'est les gulenistes, donc ses anciens alliés, mais il en a profité pour faire une purge tout azimut contre tout ce qui représentait une opposition ou de loin au pouvoir autocratique qu'il était en train de mettre en place.
C'est ça, et c'était pas simplement des militants, pour le mouvement kurde, qui est souvent rattaché au parti du PKK, qui est une organisation terroriste, qui est je perds mes idées, le fil.
Mais du coup, il a pas enfermé forcément que des gens étaient réellement liés.
C'est ça que je voulais dire. Toutes les personnes qui ont signé, les académiciens qui ont signé des pétitions contre cette sale guerre que Erdogan avait commencé à faire. Ensuite, tous les profs qui étaient au Kurdistan aussi, ils se sont fait tous virer, limoger directement.
100 000 fonctionnaires, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait. Et puis il se passe, en fait, il décide de tout. Ensuite, il y a eu un référendum où j'étais là-bas, en fait, et on a même surveillé les urnes. C'était un peu étrange, mais c'était assez intéressant. Et du coup, en fait, même là, en fait, c'était un référendum pour qu'il ait le plein pouvoir. Et il y avait les résultats qui s'affichaient à la télé à 99%, les votes avaient été ouverts, et il était en train de gagner, et il y avait des gens qui appelaient sur Twitter comme quoi, en fait, il y avait des centaines de personnes qui attendaient avec leurs urnes à la main et qui ne comprenaient pas comment ça se fait qu'à la télé, ils disaient 99% que tout avait été ouvert et que c'était lui qui était en train d'être élu, quoi.
Et on peut préciser que donc ce changement constitutionnel qui donc a fait de lui un espèce de président avec des pouvoirs extrêmement élargis, ce référendum n'est pas passé si large que ça, malgré des soupçons de fraude énormes. Donc peut imaginer que s'il n'y avait pas eu la fraude, peut-être bien qu'il aurait perdu.
Ouais.
Il est clairement majoritaire dans le pays, hein, chaque élection le montre, mais enfin il avait perdu à un moment la majorité en 2015. Hein,
ouais, ouais.
Et notamment le HDP avait fait un très bon score, c'est aussi pour ça qu'il avait procédé à une dissolution, il avait rappelé à des élections et entre-temps il avait aussi relancé la guerre au Kurdistan. Bon, tu l'as dit aussi, il y a tout le rapport ambivalent aussi avec, avec Daesh. Hein. Ouais. À un moment, on sait que les autorités turques, ça a été documenté, ont aidé Daesh, on leur a enfilé des armes. Donc évidemment, c'était compliqué d'avoir les Kurdes qui clairement étaient en combat frontal avec Daesh. Bon, ça a un peu bougé entre-temps. Mais enfin, voilà, il y a plein d'enjeux là qui font que le Kurdistan est l'ennemi parfait, idéal pour le régime.
Ouais. Exactement.
Et le PKK notamment.
Oui.
Alors bon, on va en reparler d'Erdogan, hélas, dans cette émission. On précise que l'HDP existe toujours, même si pas mal de leurs députés sont en prison. Il y a encore eu une attaque contre un de leurs locales ce week-end, ou en tout début de semaine, j'ai vu ça tout à l'heure, là, sur le site d'information Roj Info, un local à Istanbul qui a été attaqué. Okay. Tout ça dans une impunité totale. Alors on ne sait pas trop qui a attaqué, si c'est l'organisation fasciste Les Loups Gris, ou si c'est des membres de l'AKP. Mais enfin bon, tout ça, évidemment, est sous l'œil complaisant, on va dire, au minimum du régime. Voilà, et ces gens-là sont concernés, donc j'imagine aussi par vos journées de solidarité.
C'est ça.
Les membres du HDP, ouais.
Bah,
par exemple.
Oui, par exemple, ils sont concernés, mais les sous qu'on veut récupérer pendant ces week-ends-là, ça sera plutôt des personnes, des civils qui ont été enfermés. Voilà, mais ils sont concernés. La solidarité, elle est pour toutes les personnes en ce moment enfermées là-bas. Pour leurs idées politiques, pour leurs envies de révolution. Quoi.
Parce que du coup, l'idée, là, c'est surtout de ramener de l'argent. Quand on parle de solidarité, là, c'est surtout d'essayer de récolter des fonds. Et c'est quoi? C'est d'aller viser plutôt des gens qui n'ont pas forcément de gros collectifs derrière eux, qui n'ont pas forcément une organisation, quand tu dis que ce n'est pas forcément le HDP, et où tu parles de civils.
Ouais, c'est ça. C'est, en fait, là, je me dis, on s'est dit que la HDP, en fait, pouvait avoir d'autres formes de soutien, mais il y a aussi tous ces gens qui sont un peu dans des coins et un peu individuellement, et c'est ceux-là qu'on voudrait aider par... en fait, ça va être un peu... la manière dont on va agir, c'est que là, en ce moment, toutes les associations qui, sont fermées. On a trouvé quelques personnes... sur place, qui vont pouvoir récupérer l'argent et ensuite savoir de quelle manière distribuer. En fait, c'est vraiment d'individu, de rencontre à rencontre qu'on va faire ces choses-là, quoi.
Vous avez une idée du nombre de prisonniers, prisonnières actuellement liés au mouvement kurde en Turquie ?
Bah, précisément, non là-dessus, mais juste pour revenir que depuis pas mal d'années, mais on va dire depuis 10 ans, il y a eu une hausse du nombre de prisonniers de 300%.
En général en Turquie.
En général en Turquie. Du coup, après, ça reste des chiffres officiels et voilà sur quoi on stable. Mais de dire que vraiment la politique, les enjeux, c'est de construire plus de prisons modernisées, entre guillemets, avec des systèmes plutôt, on va dire... à la française, enfin, je parle pour ce que je connais, mais peut-être dans d'autres pays c'est aussi comme ça que ça fonctionne, mais avec des cellules de plus en plus individuelles pour aussi casser tous les mouvements de solidarité à l'intérieur même des prisons, pour casser tout ce qui est rapport à la politisation aussi en prison, dans un des outils justement qu'on veut utiliser et qu'on veut... diffusé lors de ce week-end. C'est un livret qui reprend plein de musique, mais il y a aussi un témoignage d'une jeune femme qui sort de prison et qui dit, en fait, à l'intérieur, on lit beaucoup, on parle beaucoup, et c'est vraiment des moments de leur vie où, en fait... ça fait partie du mouvement de lutte kurde que de profiter de ces moments-là. Et du coup, l'État en individualisant toujours plus, en fait, casse toute cette opportunité, on va dire, de ces moments-là de la vie, quoi.
Ouais, des moments de formation et d'organisation, parce qu'on a du temps, parce qu'on est ensemble en prison. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve dans énormément de luttes, et depuis des décennies et des décennies, hein, la prison qui, bon, effectivement, n'est pas souhaitable pour personne, mais quand on met plein de militants politiques ensemble, et ben, des fois, oui, ça leur permet aussi de penser, de parler ensemble. Alors, la brochure dont tu parlais, elle est très belle, vous l'avez ramenée, là, elle sera accompagnée d'un CD, c'est ça ?
Oui.
C'est vous qui l'avez conçue ?
Oui.
Vous, enfin je veux dire vous, donc les organisatrices de ces trois jours, parce que vous me disiez hors antenne, vous étiez entre 2,5 et 4 à organiser ces trois jours.
Ça dépend. Non, on est entre 4 et 100 000, en fait. Et non, ça c'est un collectif qui s'appelle Nevar Neyok, qui a fait ce livret CD, une compilation de musique du coup en soutien, toujours pareil, aux prisonniers prisonnières du mouvement kurde.
Ouais, il est magnifique.
Hein, il vient suite à aussi d'autres parutions. Enfin, peut-être tu peux parler un peu du bouquin.
Je peux commencer peut-être à lire, j'en sais rien, lire l'intro.
Ou le dire. L'historique de Nevar Neyok, oui. C'est aussi des voyages. C'est aussi...
Du coup, le collectif Nevar Neyok, ça a commencé par des voyages en 2015, justement, pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans le mouvement kurde, qu'est-ce qui se passait au Rojava, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était le confédéralisme démocratique, justement, annoncé dans le mouvement kurde. Et du coup, on a été plusieurs à y aller en délégation, à y aller à deux, à y aller. Et du coup, par des rencontres, on a fini par écrire. Au début, on voulait nous aussi contribuer d'une manière à comment dire, relayer les choses qu'on voyait,
faire
de l'info. Ouais. Du coup, on a fait un blog dans un premier temps, puis des copains, copines nous ont poussé à sortir un bouquin. Du coup, on a sorti un bouquin qui s'appelle Seledan. Seledan qu'on a fait en 2016. En français, c'est le soulèvement au Kurdistan et paroles de ceux et celles qui luttent là-bas au quotidien.
Que vous avez auto-édité ou vous avez trouvé une maison d'édition ?
Non, moi, on a trouvé la maison d'édition.
Ça s'appelle Niet Édition.
Niet Édition, c'est aussi des copains, copines. Et du coup, on s'est dit que c'était chouette aussi l'écrit, mais que c'était chouette aussi de faire de la musique, puisque la musique aussi, ça raconte, quoi, surtout chez eux, quoi.
Alors, déjà, tu as parlé du blog, on va donner l'adresse, hein, c'est Nevar Neyok, à la fin, c'est yok.noblogs, avec un s.org, nevarneyok.noblogs.org, on mettra évidemment l'adresse sur le site web, le bouquin, donc, Chénette Édition, et donc, cette brochure qui va sortir, là, accompagnée d'un CD, qui va sortir, du coup, pour ce week-end, avec le dessin signé Perrine, qu'on retrouve aussi sur votre affiche,
ouais,
l'affiche des 3 jours.
Ouais, c'est ça.
On la salue, et chouette boulot encore.
Salut, ouais. Perrine.
Salut Perrine.
Coucou Perrine.
Voilà, affiche que vous pouvez voir, que vous avez peut-être déjà vu en ville. On va peut-être commencer à détailler un petit peu le programme du coup,
ouais,
de carrément. Ces 3 jours.
Carrément.
Ça commence le 16 novembre à 20h30, mais pas à la chapelle où va se tenir quand même le gros de ces 3 jours. Ça sera à l'American Cosmographe.
Alors quand tu dis le 16, en fait, c'est demain. Voilà, donc c'est demain soir que ça se passe.
C'est vrai que ça
s'approche. Ça commence à 20h30 au cinéma L'American Cosmographe, anciennement Utopia. La programmation, c'est un ciné-concert. Donc il y a une partie concert avec le groupe Aman Aman, qui est un groupe franco-kurde qui chante et qui joue de la musique d'Anatolie. Donc c'est assez varié, ça peut passer de musique plutôt traditionnelle avec aussi des influences plus rock ou des choses comme ça.
Ils sont basés sur Toulouse ou vous les faites venir
entre Marseille, les Cévennes, enfin c'est un
Paris.
Peu
Paris,
c'est fluctuant, voilà.
D'accord.
C'est,
ils viennent pour les 3 jours,
multiples,
quoi.
Ouais. Ils font aussi d'autres projections dans la région et d'autres concerts. Du coup, c'était l'occasion de la tournée aussi qui a fait qu'on a eu envie de lancer ces 3 jours, de se dire voilà, c'est une occasion. On a envie de faire passer le groupe et le film, parce que c'est aussi le groupe qui a fait la bande originale du documentaire qui va suivre. Et le documentaire s'appelle « Une autre montagne ». En turc.
C'est Başka bir dağ.
Ouais, merci. Et c'est un film qui a été réalisé par deux copines, Noémie et Anouk, qui sont des amies de longue date, qui avaient déjà fait un documentaire autour des migrations justement entre la Turquie, la Grèce, les passages aux frontières, l'Europe, qui s'appelait « Et nous jetterons la mer derrière vous ». Donc ça, c'était en 2014. On l'avait fait tourner aussi à Toulouse. Et du coup, là, c'est la continuité des liens, c'est la continuité de faire passer de l'information. Et ce documentaire, du coup, Une autre montagne, c'est le parcours et la rencontre de femmes en Turquie, qu'elles soient kurdes ou pas, ou turques, Et du coup, peut-être je vous lis le synopsis, comme ça, ça donne une petite idée du truc sans tout raconter.
Parce que allez, vas-y.
Pas de... Alors, sur les terres d'Anatolie, un dicton dit « Si l'un de tes yeux pleure, l'autre ne peut rire. » À l'est, le Bakour, le Kurdistan de Turquie, ce sont les couvre-feux, les blocus, les occupations de l'armée turque. C'est une paix qu'on espère et qui n'arrive jamais. Ce sont des femmes dans les montagnes qui se lèvent, qui font face, qui prennent les armes. Burku et Sinem vivent à Istanbul avec cet œil qui pleure. Elles vont rencontrer Ergul, à Safranbolu, ancienne activiste des luttes révolutionnaires de la fin des années 70, étouffée par le coup d'état militaire de 80, sur les traces des luttes des femmes. Les époques se mêlent et c'est toujours la guerre, la répression et une violence au quotidien. Kurdes, mères, féministes... Il y a de la résistance et de la solidarité dans leurs mots, dans leurs pas, dans leurs cris, dans les rythmes des Erbanais. Percussion. Contre le nationalisme, la guerre, le patriarcat. C'est une autre montagne qu'elles gravissent chaque jour.
Voilà, pour le pitch donc de Une autre montagne de Noémie Aubry et Anouk Manja, histoire de citer aussi leur nom de famille. Donc ça, c'est projection, enfin ciné-concert, hein, et c'est donc demain à 20h30, tarif unique 8 euros.
Tout à fait.
Voilà. Ok, du côté de l'American Cosmograph, est-ce que vous avez ramené un petit titre d'Aman Aman?
Non. Ah. Non, tout est surprise. Faut venir, c'est très très bien.
Aman Aman, il y aura deux occasions hein, parce qu'ils reviendront aussi
samedi soir.
À la chapelle. Ouais. Ben, on donc, va quand même se faire une petite pause musicale. Alors, si on n'a pas Aman Aman.
Donc, c'est ciné-concert, t'as le groupe qui joue pendant le film.
Avant.
Donc, avant le film.
Avant le film.
Ok, je pensais qu'ils jouaient sur le film.
Non, c'est pas un film muet avec
non,
la
c'est
musique.
C'est d'abord le concert et ensuite le documentaire.
D'accord.
Ça aurait été marrant.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes derrière du coup? Puisqu'on n'a pas Aman Aman, on a trois titres. Par quoi on démarre première pause musicale?
Vas-y, surprise.
Allez,
surprise.
بخت کن تو را تخت خوب بخت خوب پرس نکن تدرم رو شو بر بیزر یه منایی تو زندان هر دنه Hvad jeg sagde om rå, hvad jeg Ostarını tınıya Nıtıma kız kıyınına Nıkı közle gıt kokı kıyı Nıtıma kız kıyınına Nıkı közle gıt kokı kıyı
C'était Ahmet Aslan, j'espère que je le dis bien.
Très bien.
Et le titre du morceau, c'était Vek Rayamir.
Ouais, très bien.
Qu'il est fort.
Il est bien dit.
On vous passe de la musique kurde, mais surtout on parle Kurdistan dans le magazine de Canal Sud parce qu'on annonce ces 3 jours de solidarité aux prisonniers prisonnières du mouvement kurde en Turquie. Ce sera donc à partir de demain et jusqu'à samedi. On est avec Derya Esso qui font partie des organisatrices de ces 3 jours et avec qui on détaille un petit peu le programme et on parle un petit peu de la situation politique au Kurdistan en général et particulièrement au Bakour, hein, donc en Turquie. Avant de reprendre le cours du programme, tu disais tout à l'heure, tu as fait allusion au municipalisme de Murat Bookchin, qui est maintenant que tente d'appliquer le mouvement kurde, notamment du côté du Rojava. Est-ce que ça a débordé côté turc? Est-ce que ça a une influence, un impact sur les modes d'organisation côté turc? Sachant côté turc, il y a quand même, c'est la guerre civile, hein, donc évidemment, s'installer politiquement, des fois, c'est à certains endroits, ça va être un peu compliqué.
En vrai, le confédéralisme démocratique, il vient surtout de Turquie à la base. C'est en fait justement quand en 2015, en printemps 2015, quand on était là-bas, c'était vraiment, je sais pas, les bourgeons qui étaient, c'était hyper organisé, il y avait plein d'assemblées partout, c'était sur les, comment pour eux, en fait, c'est, il y aura une révolution à partir du moment où les femmes feront la révolution, sinon ça sera pas une révolution, c'est comment revoir l'éducation des enfants par la musique, par le théâtre, par l'art, par comment les anciens vont venir raconter des histoires, vont venir conter. C'était tout ça qui était présent et c'est ça qu'ils sont venus massacrer quoi, le gouvernement.
Oui, parce que du coup, c'est le PKK qui a porté aussi cette transformation, hein, en tout cas politique, c'est ce projet qui a lancé un petit peu au départ cette idée d'aller vers ce mode de fonctionnement collectif.
Ouais, je suis un peu mitigée sur cette question-là. Le PKK, c'est une organisation à la base en fait qui était très marxiste-léniniste et qui ensuite a pris des tangentes un peu plus anarchistes, je dirais. Mais toute cette transformation-là, elle s'est pas faite que en fait, par le parti, quoi. Elle s'est faite aussi à la base avec cette espèce d'aller-retour entre le peuple et justement le parti, quoi. Parce que si ça avait été juste le parti, ça serait pas très intéressant, quoi. Il y a une espèce de mélange, quoi. Là-dedans.
Surtout vu la proposition quand même, qui est une proposition pour aller vers plus de participation de chacun et de chacune aux affaires qui nous concernent, quoi, aux affaires publiques. Et donc ça se dessine pour toi plutôt en Turquie et ça va donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Alors ça infuse plutôt du Kurdistan, du Rojava, du Kurdistan côté syrien, d'accord.
Ouais.
Parce que c'est, on en parle beaucoup aujourd'hui quand on parle du Rojava, beaucoup moins quand on en parle de Turquie, quand on parle de la partie turque. Tu expliques ça comment du coup?
Parce qu'en fait, le PKK s'est vu comme une organisation terroriste depuis longtemps, et en Turquie et partout dans le monde. Et au Rojava, en fait, maintenant, le PKK était malin. Ils ont fait un autre parti qui est membre du PKK quand même, qui est le PYD. Et du coup, ce parti-là n'est pas vu comme terroriste. Du coup, on peut en parler. Les Américains peuvent soutenir et d'autres gens aussi avec, quoi. Du coup, ils viennent défendre l'Europe contre ces Daéchiens tarés terroristes venus attaquer les pauvres Européens.
Oui, c'est ça. Il y a aussi effectivement le fait que le Rojava soit retrouvé en première ligne, et c'est vraiment, c'est pour ça, le coup, sur la ligne de front du combat contre Daesh, a aussi leur a donné une petite médiatisation, quoi.
C'est ça.
Y compris sur leur manière de fonctionner.
Mais ils ont gagné. En fait, le truc qui était fou, c'était justement encore tout, la date de 2015. Ouais, mine de rien, c'est une date assez assez importante. C'est Kobané, qui est une des grandes villes du Rojava, a failli se faire prendre par Daesh. Et si ça a été pris par Daesh, c'était fini, quoi, pour les Kurdes. Et à partir du moment où les Kurdes ont repris le territoire, il y a eu justement toute l'Europe qui a idolâtré les femmes combattantes. Oui, du coup, ils ont été accueillis à Paris, mais très vite, quand la Turquie a commencé à attaquer les Kurdes de Turquie, les Kurdes, après, en fait, ils envoyaient aussi des tanks et ils les envoient toujours au Rojava. Là, il n'y a plus personne en solidarité, personne n'a entendu parler. Juste de temps en temps, on parle des combattants, combattantes, pour dire, bon, ils sont quand même là pour nous débarrasser des Daéchiens qui vont comme ça pas venir chez nous, quoi.
Alors on peut préciser, oui, parce qu'on a l'impression que le Rojava, comme ça, ce serait une espèce d'entité unique, hein, d'un point de vue géographique. En fait, c'est trois zones, hein, du côté syrien, et l'idée, c'était aussi de relier notamment deux de ces zones entre elles, et les Turcs sont intervenus pour couper, hein, empêcher que les combattants kurdes fassent la jonction. Hein.
C'est ça, mais il y a quand même eu, il y en a deux qui sont rejoints d'un côté, plus ce côté d'Irak, là. Et il y a un trou, quoi, entre les deux, et ça, c'est la Turquie empêche pour pouvoir continuer de faire ses transactions avec Daesh, et il veut pas d'un pays kurde à ses pieds, quoi.
Oui, très clairement, il y a aussi l'idée qu'il faut pas commencer à ce qu'il y ait un Kurdistan, même côté syrien, c'est qui ça, puisse se créer et qui puisse venir renforcer la détermination et le long combat du ça, peuple kurde. Allez, on va continuer, peut-être du coup à détailler le programme. On a parlé du jeudi avec ce ciné-concert à l'américaine Cosmographe. On passe maintenant à vendredi, et là ça y est, on est à la chapelle où va se tenir le reste de ces trois jours de solidarité.
Alors du coup, vendredi, ça se passe à la chapelle. Juste pour donner l'adresse, c'est 36 rue Daniel Casanova, près d'Arnaud Bernard. Du coup, ça va être la soirée de présentation du livret de compilation en solidarité avec les prisonniers, prisonnières du mouvement kurde en Turquie. Et aussi une projection du film de Mylène Sollois, Quand le chant s'en va en guerre. C'est un documentaire sonore, du coup, où elle met...
Non, c'est pas un documentaire sonore, c'est un documentaire
sonore et visuel
avec de la musique à l'intérieur.
C'est les deux. C'est les deux.
C'est bien une projection, pas juste une diffusion de son.
C'est ça. Du coup, qui vient justement appuyer la compilation, comme quoi en fait la musique, c'est quelque chose d'important dans la lutte des Kurdes, quoi, en général, que ce soit en Iran, en Irak, en Turquie, Rojava.
Que c'est, ouais, que c'est un moyen de lutter et qui est aussi un levier sur lequel l'État peut tout à fait jouer sur les interdictions de parler kurde ou de la musique ou le fait qu'il faille avoir une autorisation sur chaque album pour pouvoir être vendu. Enfin, voilà, ça parle aussi de la répression au niveau culturel, du coup, là, au niveau de la musique. Du coup, c'est voilà, à la fois le moyen de lutter et à la fois ce sur quoi tu racontes ce qui se passe, mais c'est en racontant ce qui se passe, en fait, tu luttes, quoi. Déjà, tu luttes contre une hégémonie d'une idéologie qui voudrait pas que t'existes. Donc,
On a entendu en début d'émission un Dengbej, on en parlait un petit peu hors antenne, ce sont des chants généralement assez anciens kurdes, là aussi il y a une transmission qui se fait par les Dengbej d'une histoire kurde que l'État turc entre autres a essayé d'occulter,
ouais.
Ça joue ce rôle-là les Dengbej ?
Ouais, aussi ouais.
Toi tu disais que dans les familles etc, les anciens surtout écoutaient des Dengbej et se les passaient comme ça.
Mais moi c'est mon père qui nous en passait et nous du coup comme on était gosses on n'avait pas envie et puis on comprenait pas quoi. On nous a pas appris le kurde, on nous a appris la langue de l'ennemi quoi, comme ils disent. Et du coup comme on comprenait pas, mais en fait finalement si un jour je comprends je pense que ça sera chouette. Mais ouais c'est des anciens qui viennent dans les villages et qui ça réunit tout le village, tout le monde est là avec des grands yeux. J'ai vu quelques vidéos comme ça où tout le monde est vraiment attentif et à écouter ces histoires là quoi. Et accompagner souvent les Dengbej, des fois, souvent je dis, c'est vraiment des vieilles personnes, des fois ils voient plus, ils ont du mal à marcher, ça peut être, ouais, j'ai ces images-là, mais ça peut être d'autres gens, je pense, j'imagine. Mais...
Ouais, mais il y a ce côté mémoire vivante, il y a un petit côté griot, là, comme tu le dis,
ouais,
ils arrivent dans le
ça,
village
ouais.
Et ils viennent transmettre une parole difficile à obtenir autrement, quoi.
Ouais.
Et du coup, ça c'est le film et la présentation de la compilation, c'est vendredi à la chapelle. Ouverture des portes à 18h30, l'entrée est à prix libre et il y a un repas aussi qui est prévu pour ce soir-là.
D'accord, que vous assurez vous-même ou il y a des gens qui viennent l'assurer ? Comment ça se passe ?
Ensemble.
Plein de
ensemble.
Coups de main.
Ok, plein de coups de main.
Ouais.
On va dire un mot quand même de Mylène Solois. C'est elle qui a réalisé le film Quand le chant s'en va en guerre, mais elle reviendra aussi. En tout cas, un de ses films sera aussi à l'affiche du samedi. C'est une documentariste qui a l'air de, du coup, pas mal bosser sur,
ouais.
sur le peuple kurde.
Ouais.
Ouais.
Ouais, fait pas mal d'allers-retours. Comment dire ? Je voudrais pas dire des bêtises. Mais je connais pas trop sa biographie.
D'accord.
En tout cas, elle aurait aimé venir,
ouais,
mais,
voilà,
mais dans plein d'allers-retours,
elle
n'est pas disponible.
Ouais.
Mais voilà. En tout cas, c'est avec plaisir qu'elle nous a filé ses films. Et voilà.
Alors, on va passer au samedi, du coup.
Ouais.
On la salue, ouais. Salut Mylène. Et donc, samedi 18 novembre, là, c'est la grosse journée, en tout cas la grosse après-midi et soirée. Ça commence à 13h30.
Alors,
toujours
ouais,
à prix libre.
Ouverture des portes 13h30. Pour commencer l'après-midi, il y a un atelier d'écriture de lettres aux prisonnières qui est proposé par un collectif qui s'appelle Solidarité Femmes Kobané, du coup, qui viennent de Paris. C'est un atelier en mixité choisie, 100 mecs 6. Et donc ça, c'est ce qui commence l'après-midi. Ce sera voilà, le concept. Moi, je n'ai jamais fait leur atelier, mais voilà, c'est comment, pourquoi ce collectif existe, c'est quoi les liens qui peuvent être créés avec des personnes en prison en Turquie. Et voilà, que c'est une manière, en tout cas, d'écrire des lettres, de faire savoir qu'elles ne sont pas oubliées, de faire savoir que même en France, à Toulouse, à 36 rue Daniel Casanova, il y a des gens qui, voilà, qui réfléchissent à ça, qui ont envie de participer d'une petite mesure, mais ce n'est pas une petite mesure, en fait, juste de créer du lien et de réfléchir à comment on fait et de le faire collectivement, ça a du sens. Donc ça, c'est à 14h. C'est à partir de 14h jusqu'à 16h.
Oui, jusqu'à 16h. Et contrairement à ce qui est écrit sur le programme qu'on retrouve sur le site iata.info, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il y avait marqué qu'il n'était pas possible d'intégrer l'atelier en cours, qu'il fallait vraiment être à l'heure. Et en fait, non, hein, il y a moyen d'intégrer l'atelier en cours. On précise, donc là, c'est en mixité choisie, mais notamment sur le site de Nevar Neyok, hein, il y a des explications, hein, des modes d'emploi et des propositions pour envoyer du courrier aussi aux prisonniers. Prisonnière, donc vous pouvez aussi le faire de votre côté.
Oui.
Voilà, il y a pas, c'est pas une obligation de passer par l'atelier. Voilà, notamment pour les mecs 6 qui voudraient quand même faire cette chose-là. À 14h30 projection.
C'est ça.
Et là, c'est à nouveau Mylène Solois, dont on avait passé le film, enfin dont vous allez passer le film le vendredi soir, qui revient avec un film plus récent de 2016, La Guerre des filles.
Oui, qui est passé sur Arte, je crois. Ouais. Et là, ça sera plus sur les femmes au Rojava, du coup, plus les combattantes. Ça sera moins sur le mouvement des femmes.
Justement, celles qui se retrouvent en première ligne face à Daesh,
c'est
hein,
ça.
Dont on parlait.
C'est ça.
D'accord. Vous avez eu l'occasion de voir le film ?
Oui, oui.
Ouais. Oui. D'accord. Donc diffusé sur Arte, ouais, c'est un 53 minutes, hein, c'est un format classique. Donc ça, c'est en parallèle. Il faudra faire ou l'atelier carte postale ou aller en projection.
Des allers-retours.
Ouais. Voilà, c'est... Ou d'un œil.
Ça circule, quoi. Ça.
Ok. Eh bien, on continue alors. 16h30.
Et ensuite, à 16h30, bah, le collectif Never New York va présenter un peu la situation du Kurdistan, un peu faire une chronologie, expliquer un peu aux gens ce qui se passe parce que les gens ne sont pas toujours au courant ou tu as juste une petite info et puis tu n'as pas l'autre. C'est un peu pour essayer de répondre aux questions des gens.
Oui, puis on avait aussi envie de partir du principe qu'on n'est pas forcément tous et toutes au fait de ce qui se passe en ce moment, mais même qu'est-ce que le Kurdistan ? En vrai, en parlant autour de nous, moi je m'aperçois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos, ou alors si tu ne t'intéresses pas à ça, tu sais à peine ce que c'est le Kurdistan, en vrai. Et du coup, ça paraît important dans ce genre de festival de partir aussi du début, quoi. C'est quoi le Kurdistan ? C'est quoi un peu l'historique ? Et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, du coup ? Un peu comme une suite logique.
Donc ça veut dire que là, ça parlera pas simplement du Bakour, hein, du Kurdistan côté turc. Ça parlera un petit peu du peuple kurde en général, y compris des problématiques qu'on peut retrouver en Irak, en Syrie, etc.
Non.
Non, ça restera quand même.
Mais, ouais, plus sur un truc de même géographiquement, enfin d'avoir des visuels aussi qui permettent de. Bah, je vais pas appeler ça un cours, mais un peu comme un exposé de c'est quoi le Kurdistan, justement, sans rentrer dans chaque spécificité, mais plutôt sur la Turquie de toute façon. Mais plus sur des informations comme ça de historique, géographique, géopolitique.
Donc ça, c'est à partir de 16h30, et c'est pas la fin de cet après-midi, ça continue encore, 17h30, discussion autour donc, de la répression contre le mouvement kurde en Turquie, donc là, un peu dans le vif du sujet, on va dire, de la raison d'être de ces trois jours.
Et du coup, on a un peu des invités qui seront là. Y a Engin Sustam qui va venir de Genève, qui est lui réfugié là-bas depuis, je crois, presque 2 ans. Lui, il fait partie des personnes qui ont signé justement contre la guerre. C'était un des académiciens universitaires. Et du coup, là, il va venir parler un peu de son expérience. Ensuite, on va avoir aussi d'autres collectifs. Du coup, Solidarité Femmes Kobané, qui avant aura fait l'atelier en non-mixité, fera une présentation un peu de ce qu'elles font. De ce qu'elles ont déjà écrit, de ce qui va bientôt paraître. Voilà, après, il y a le collectif OCMLVP qui va aussi parler un peu, présenter ce qu'ils font comme action, ce qui est autour
Le parti politique même, hein, Voix prolétarienne, ouais.
C'est ça. Voix prolétarienne, pardon. Qui, du coup, vont parler un peu des actions qu'ils font sur les pansements hémostatiques, par exemple, puis aussi parler de la situation de personnes incarcérées en Allemagne par rapport à leurs idées autour du PKK, autour du mouvement kurde. Et voilà, et Never New York va peut-être aussi être par là.
Bah, de toute façon, oui, ça sera pas loin, quoi.
C'est ça, c'est...
Et puis après, le soir, évidemment, on part vers la musique et un repas et concert de soutien.
C'est ça. Et les repas sont des recettes kurdes turques un peu, voilà, un peu pour faire avec la thématique, quoi.
Mmh. Et alors qui vient en concert ?
Toujours Aman Aman, les copains copines qui étaient justement le jeudi à l'American Cosmographe. Si vous avez été frustré de ne pas les voir là-bas et que vous les avez juste vus parce que c'était juste 10, je crois que ça va être juste 10-20 minutes de concert.
30 minutes.
30 minutes, ah quand même.
20 à 30 minutes.
Ah bon, on m'a dit 10 ans, mais
ah bah peut-être que c'est la surprise.
Bon, en tout cas, c'est une petite ouverture du mais film, alors que là, il y aura un vrai concert.
Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, c'est ça.
Et y aura quand même... est-ce qu'il y aura les Shakira là-bas ?
Oui, bien sûr.
Ah. Oui, je n'ai pas vu.
Bah, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, les Shakira, qui est la chorale féministe de Toulouse, viendra aussi chanter... leur chant. Ouais.
D'autant plus qu'elles ont, une chanson en kurde. Hein.
Ouais,
donc c'est bien, ça tombe bien. Bon, elles en ont qu'une, elles pourront pas faire Elles pourront, okay, tu cours d'un, oui. Elles pourront pas faire tout le thème. Donc voilà pour le programme. Là, on a donné un peu horaire par horaire le programme de, cette, de la grande journée à la chapelle ce samedi 18 novembre. Il y a quand même des choses aussi en continu. Hein, là, on a donné ce qui se passait, les rendez-vous. Il y a une exposition de photographie.
Oui.
Pendant l'état de siège dans les villes kurdes.
C'est ça.
Donc là, comment, d'où elles viennent ces photos? Comment vous les avez récoltées?
En fait, Neverneo qui a été en lien avec un journal à l'époque, DIA. Avec qui on échangeait pas mal de mails et à qui on a demandé des photos et ils nous ont donné leurs photos.
D'accord.
Du coup, on a pris ces photos qu'on a imprimées.
Et alors, par contre, autre rectification du programme, il y a une exposition de peinture qui était prévue et celle-là, vous nous racontiez là hors antenne que bah, du coup, elle n'aurait pas lieu.
Ouais, on est un
Elles sont parties à Zurich.
Ouais, on est un peu triste.
On est un peu triste, ouais.
Mais on est contente pour elle.
Ouais, c'était une exposition de peinture de Zehra Doğan, journaliste militante qui est enfermée dans les geôles en Turquie.
C'est ça.
C'est des peintures qu'elle a fait en prison.
C'est ça.
D'accord. Et alors pourquoi elles sont parties à Zurich alors qu'on les attendait à la chapelle 36 rue Daniel Casanova?
Parce qu'elle a eu un prix.
Ok.
Mais du coup, comme elle a eu un prix, les personnes qui s'occupent justement de toute l'exposition qui est distant en fait, c'est un site du coup internet. Où il y a des copains, copines qui bossent pas mal autour de la question. Et surtout en ce moment, ils font beaucoup de campagnes autour de la question de Zehra Doğan pour rendre compte de tous ces gens en fait, qui sont en prison. C'est un peu un focus sur elle pour essayer de parler du reste. Et voilà, et du coup, tout ce paquet qui était prêt pour nous, bah, ça a été à Zurich.
C'est voilà. Parti à Zurich.
Voilà.
On va quand même en dire un mot du coup de cette journaliste-là. Pourquoi ils mettent la lumière sur elle particulièrement
Mais je crois que c'est aussi une rencontre. C'est parce qu'à Douarnenez, il y avait un festival autour des peuples de Turquie l'an dernier. Et Zehra Doğan, normalement, elle faisait partie des invités et elle n'a pas pu venir. Et du coup, Kédistan était présent là-bas et de là, je pense qu'il y a eu du lien qui a été fait avec Zehra Doğan et ils ont fait des allers-retours là-bas. Ils ont réussi à dissimuler les peintures d'une manière, je ne sais pas, ils ont réussi à les faire venir quoi. Ils ont dit bon, on va faire du bruit de cette manière-là puisque on essaye. En vrai, je crois qu'en fait, on essaye de trouver toute forme de support qui pourrait intéresser et faire un zoom sur la situation au Kurdistan quoi. Tous les moyens sont bons, quoi. Mmh. Les stickers, les concerts, les festivals, les livres, des blogs.
Et puis comme tu l'as dit, il ne s'agit pas de personnaliser ou de parler que d'une personne, mais travers cette personne, c'est on ça. Peut ouvrir sur tout le problème des prisonniers, prisonnières et de la répression contre le mouvement kurde. Et puis il y aura évidemment, alors pour terminer donc sur le programme quand même, il y aura évidemment des tables d'infos pendant toute l'après-midi avec notamment la caisse d'autodéfense juridique, Niet Édition, qui a édité votre petit bouquin, celui en tout cas du collectif Nevar New York, dont j'ai oublié le nom.
Seleldan.
Merci. Et il y aura également la compilation de solidarité, des livres, des cartes postales, des affiches, etc. etc. Tout ça en lien de près ou de loin avec le mouvement kurde.
C'est ça.
Samedi 18 novembre de 13h30 jusqu'à 22h, c'est ça, la fermeture des portes.
Ouais,
toujours pareil,
ça.
Même le samedi soir à la chapelle.
À cause des voisines.
Et oui, c'est comme ça que ça se passe à la chapelle. Eh bien écoutez, vaste programme, on va peut-être se faire une petite pause musicale, une nouvelle.
Ouais, avant de parler de CQFD, est-ce que t'as un choix?
Non, je t'en prie.
Allez. Ouais. C'était Einur Doğan. Je me reprends à parler turc. Kurde, pardon.
Kurde, attention. Non, c'est turc là ?
Non, là, ouais, c'est Einur Doğan.
Ok. J'ai juste pas l'accent.
Sinon ouais, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas si mal pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, il faut le dire. On est toujours dans le magazine de Canal Sud. On a parlé longuement de ces trois jours en solidarité aux prisonniers prisonnières du mouvement kurde qui se tient, allez, on va redonner vite fait les dates, jeudi 16 novembre, donc demain à partir de 20h30, ciné-concert à l'American Cosmographe. Le vendredi, ça part à la chapelle, ouverture des portes à 18h30, repas et projection et présentation d'une compilation de solidarité. On va en revenir dans un instant. C'est donc une soirée autour de la musique comme outil de lutte au sein du mouvement kurde. Et puis le samedi, une grande journée, en tout cas une grande après-midi et une soirée. Ça commence dès 13h30 avec tout un programme assez riche qui terminera par un concert et repas le soir. Le programme détaillé, on le retrouve sur IATA, hein, sur le site d'information
iata.info.
Pour se quitter, redire un mot de ce petit bouquin que vous sortez, de cette brochure accompagnée d'un CD qui sera donc présenté officiellement, on va dire, le vendredi à la chapelle. Une compilation en solidarité, donc, comme ces trois jours, hein, avec les prisonniers et prisonnières kurdes.
Du mouvement kurde.
Du mouvement kurde. Est-ce que derrière, tu nous disais tout à l'heure que tu pouvais lire un petit peu l'édito?
Lire l'édito si ça va. Après un recueil de témoignages sur la période d'insurrection populaire de 2015-2016 au Kurdistan de Turquie, Salih Eldan, le soulèvement au Kurdistan, publié en 2016. Nous proposons cette compilation de solidarité aux prisonniers prisonnières du mouvement kurde et à leurs proches. Aujourd'hui, et ce depuis l'été 2016, la Turquie est bel et bien entrée dans une violente phase de contre-insurrection étatique. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, c'est pour nous le temps de la solidarité. Garder le sourire, chanter, danser pour rester en vie, être fort et faire enrager l'ennemi. Au Kurdistan comme en Turquie, la musique est depuis longtemps brandie contre l'oppression et la répression de l'État. Il y a peu de temps encore, pendant le siège des villes et des quartiers insurgés en 2015, les habitants-habitantes bravaient les couvre-feux et sortaient des rues pour chanter et danser ensemble malgré les interdictions. Et durant les attaques menées par les forces spéciales de l'armée turque contre Sur, la vieille ville insurgée de Diyarbakir, les jeunes combattants-combattantes assurant l'autodéfense armée du quartier, même encerclés, continuaient à danser leur halaï entre deux affrontements mortels. Voici donc une petite sélection de quelques morceaux de musique et leur traduction. Nous aurions bien voulu en mettre davantage, mais il n'y a malheureusement pas assez de place sur un CD. Cet échantillon tout en couleurs retrace par petites touches l'histoire des Kurdes de Turquie, d'Irak et du Rojava, celle de l'opposition révolutionnaire turque, mais aussi celle des femmes, de la lutte des classes, de la résistance. Ce sont des chansons qu'on peut entendre là-bas, à la radio, dans les dolmouches, minibus locaux, des petits restos. De la musique kurde et turque entre rock psyché et classique révolutionnaire entre chansons populaires et rap d'aujourd'hui. Nous proposons par la même occasion un petit topo sur la situation de l'enfermement en Turquie, ainsi qu'un témoignage direct d'une jeune kurde qui a passé plus d'un an dans la prison spéciale de Diyarbakir en 2016. Et être solidaire, aider, comment aider? La réponse à cette question, souvent donnée par les gens là-bas, c'est le manque d'argent. De nombreuses personnes accusées d'avoir participé au mouvement se sont retrouvées licenciées du jour au lendemain, ou bien mises en prison. Et les proches et les enfants, les familles restent dehors. Ils continuent de lutter depuis l'extérieur, tout en étant de plus en plus sans ressources. Comment continuer de résister si tu n'as pas plus ni salaire, ni même une maison parfois? De plus, les collectifs de solidarité, les organisations des droits de l'homme et des associations d'aide aux prisonniers prisonnières, comme toutes les autres structures du mouvement civil kurde d'ailleurs, se sont vus depuis plus d'un an fermer leurs comptes bancaires par l'État turc. L'argent récolté ira donc directement aux prisonniers prisonnières du mouvement kurde et à leurs proches. Nous savons que ce n'est qu'une modeste contribution de solidarité, libre à chacun chacune de lancer d'autres initiatives.
Introduction donc de cette compilation, mais qui pourrait être aussi l'introduction de ces trois jours.
C'est ça.
Merci d'être venu, Soederia.
Merci.
Et bon courage pour les derniers moments de l'organisation.
J-pas beaucoup du tout.
Kurdistan, trois jours en solidarité aux prisonniers, prisonnières kurdes en Turquie.
Venez, faites tourner l'info.
Ah ouais, venez, ouais. Même s'il y a origine contrôlée, venez aussi par chez nous, quoi.
Ouais, il y a moyen de faire les deux, hein.
Ouais, c'est ça.
D'aller, notamment d'aller profiter de ce grand samedi après-midi et de la soirée de samedi à la chapelle.